Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas trop avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans cette émission inattendue. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Paul pour animer cette heure d'émission. Comment vas-tu, Paul ? Et qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui ?
Salut Hello, ça va très très bien, merci. Eh bien aujourd'hui, j'ai rencontré Clément, projectionniste bénévole au cinéma du Guéclin à Cancale. On a parlé des annonces de Castex, en particulier la fermeture pour 3 semaines supplémentaires des cinémas, théâtres et salles de spectacle. Et toi, quoi de beau ?
Eh bien moi, je me suis rendue samedi matin au marché du Blône, où étaient présents des membres d'Amnesty International pour nous parler de la campagne « 10 jours pour signer », campagne organisée tous les ans au moment de la Journée des droits de l'homme pour défendre des personnes dont les droits sont bafoués. Cette année, la campagne a débuté le 4 décembre.
Soso étant clouée au lit, façon de parler, hein, ce n'est pas un fakir bien sûr, elle ne nous parlera pas de LPPR aujourd'hui, yes !
Absolument, en revanche, on découvrira ensemble une nouvelle chronique préparée par Mélène sur les luttes populaires. Ça s'appelle l'actu des oubliés et on vous réserve ça pour la fin de l'émission.
C'est parti pour la presque heure de folie de l'inattendu.
On commence avec une page d'actualité pour lancer cette heure d'inattendu.
Vendredi dernier, notre cher Premier ministre Jean Castex annonçait les nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le 15 décembre, soit demain, devait signer la fin du confinement et notamment la réouverture de plusieurs lieux de culture, dont les salles de cinéma, de spectacle et de théâtre. Eh bien, ce mirage s'est éclipsé lors de l'allocution télévisée de notre Premier ministre. Cinéma, théâtre et salles de spectacle devront donc attendre au moins 3 semaines où elles resteront fermées en supplément. Une partie importante du milieu de la culture a exprimé son émoi suite à l'annonce de Jean Castex. Une fois de plus, le milieu de la culture se dit d'ailleurs sacrifié sur l'autel du Covid. Et pour discuter de l'impact de ces nouvelles semaines de fermeture sur les salles obscures, je me suis entretenu avec Clément Simon, chroniqueur cinéma pour le magazine Maze et projectionniste bénévole au petit cinéma d'art et essai de Cancale, le cinéma du Guéclin. Il revient avec nous sur son incompréhension de la girouette des annonces gouvernementales qui ne semble pas prendre en compte les difficultés des cinémas.
D'abord, il y a une certaine exaspération vis-à-vis des annonces, puisqu'on nous dit qu'on va réouvrir, et puis en fait, ça ne se fait pas. Et ça fait plusieurs fois que ça arrive, sachant qu'on n'a aucune garantie qu'une ouverture soit possible le 7 janvier, puisque Roselyne Bachelot avait annoncé sur l'antenne de Jean-Jacques Bourdin qu'effectivement, il n'y avait vraiment pas de garantie que le 7 janvier soit possible. Donc en fait, c'est surtout ça, il y a une exaspération, puisqu'en fait, il faut comprendre, et là, cette fois, ça avait été un peu entendu, qu'il nous faut quand même peut-être plusieurs semaines pour préparer une programmation, pour pouvoir ouvrir le cinéma dans les délais et avec des films qui puissent attirer nos spectateurs. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, puisque pour le cinéma de Cancale, on a une entente de programmation. Donc c'est Ciné-Diffusion qui en fait fait la demande auprès des distributeurs pour obtenir les films. Nous, on a une certaine liste, mais eux finalisent tout ça. Et c'est vrai que tout ce travail est jeté à la poubelle tout le temps, et je pense que c'est ce qui génère le plus d'exaspération.
Le couperet de vendredi dernier n'est pas le premier coup de massue imposé par le gouvernement aux salles obscures. Après la réouverture en juillet dernier, l'annonce d'un couvre-feu n'a pas aidé les gérants de cinéma à surmonter la crise.
Il y avait le couvre-feu qui ne permettait pas vraiment de faire des séances après 18h, 18h30, ce qui était compliqué puisqu'il fallait effectivement que les gens soient rentrés chez eux à 21h ou du moins sur la route. Et c'est vrai que ça empêchait la diffusion de films assez longs puisqu'il y en a beaucoup qui dépassent les 2 heures. Et c'était à peu près faisable puisque les fidèles, les gens qui viennent régulièrement en fait, il y a une partie qui sont retraités donc ça allait pour cette heure de 18h, mais pour les gens qui travaillent c'était compliqué de venir aux séances, donc c'était déjà un petit peu compliqué. On avait quand même réussi au mois d'août à faire quelques rencontres et à faire venir des équipes, notamment pour le film de Paul Vecchiali, et ça avait vraiment bien marché. On avait très très belles entrées, on faisait complet avec la marge qui était instaurée, donc à 50%. Après il y avait toute une histoire effectivement de laisser un espace entre chaque groupe, et on avait fait un très très beau mois d'août qui avait été, nous, un petit peu compliqué par des travaux qui avaient lieu sur le bâtiment à partir de septembre. Donc c'est vrai que la rouverture l'a été vraiment bénéfique puisqu'on avait 2 semaines de vacances scolaires, donc une possibilité d'attirer des familles, puisqu'il y avait déjà plusieurs films, je pense à Calamity Jane, et c'est vrai que là, c'est encore une fois un travail qui est balayé.
Bien sûr, pour les passionnés du 7e art, les salles de cinéma ne sont pas les seuls moyens d'apprécier un bon film. En revanche, comme nous l'explique Clément, les plateformes en VOD comme Netflix ou encore Amazon Prime constituent une réelle menace pour le grand écran, particulièrement en période de confinement.
toute façon, un cinéphile dira que c'est pas toujours grave, puisqu'en fait, effectivement, on peut voir les films ailleurs, mais le problème, c'est que la salle de cinéma, c'est vraiment un lieu social et un lieu de rencontre, et c'est ça qui est inquiétant si on le perd. Par exemple, dans le cadre d'une petite salle comme la nôtre, c'est-à-dire que le tarif le plus élevé est à 5,50€, donc en fait, ça permet de venir en famille pour un coût plutôt correct, et donc on avait de belles entrées sur des films d'animation, je pense à Calamity Jane, il y a eu plein de belles choses comme ça, et les familles continueront à venir. La grande inquiétude, c'est qu'il faut pas que le cinéma devienne comme ce qu'est la musique classique aujourd'hui, c'est-à-dire un art, une culture pour des initiés, pour un petit cercle. Ça, il ne faut vraiment pas que le cinéma se renferme sur la cinéphilie. Alors c'est le risque, c'est ce que il faut pas se réinventer, faire que des rencontres, des animations autour. Il y a des cinémas qui développent des restaurants à côté. Bon, c'est dommage de faire venir les gens pour autre chose que du cinéma, mais il faut toujours penser aux alternatives. Cela dit, ça demande une énergie encore plus impressionnante. Déjà que là, entre la programmation, les projections et les rencontres, c'est déjà un temps pour des bénévoles assez important. Donc, comment le cinéma va pouvoir se réinventer, j'en sais rien, mais effectivement, je pense qu'il va avoir du mal à se relever de tout ça.
L'annonce de vendredi n'a laissé que très peu de temps aux gérants de salles de cinéma pour se retourner. Les programmations et les protocoles sanitaires étaient prêts pour accueillir les spectateurs avares de nouvelles pépites cinématographiques. Les programmations étant tombées à l'eau, j'en ai profité du coup pour demander à Clément comment cela se passait avec les distributeurs dans ce genre de situation.
Il y a plusieurs possibilités en fait au niveau de la programmation. Nous, comme on a une entente de programmation, donc on fait des propositions de films à Cinédiffusion qui eux gèrent du côté avec les distributeurs, donc ceux qui vendent le film aux salles. Ils voient avec eux si effectivement il y a possibilité de passer le film. Alors soit en général ils demandent un minimum de séances, si vous le prenez en première, deuxième semaine, et en général il y a moins de les conditions sont moins drastiques si vous le prenez après 4 semaines de diffusion. Soit vous avez ce minimum de séances, soit en fait vous payez un minimum garanti, donc souvent c'est quelque chose plusieurs centaines d'euros en fait, et vous le diffusez autant de fois que vous voulez. Donc ça dépend vraiment des fonctionnements. Nous c'est vraiment au niveau du nombre de séances, donc c'est pour ça qu'on a certains films un mois après leur sortie. Puisque la première semaine, par exemple, pour des très gros blockbusters, ils exigent plusieurs séances, donc ce qui est très compliqué pour nous, vu qu'on a un mono-écran, donc on va pas monopoliser le week-end juste pour un seul film. Donc en fait, voilà, on a souvent des films qui sortent en 3e, 4e semaine, mais comme on a vraiment des très bons chiffres, et surtout de beaux niveaux au niveau des rencontres, et ben en fait, les distributeurs nous font confiance, et en général nous octroient beaucoup d'avant-premières. Ce qui est déjà vraiment bien pour notre salle, puisque là, pour la réouvertures, on devait avoir 3 avant-premières dans la semaine, ce qui est vraiment exceptionnel, quoi. Ce qui arrive l'été quand on a beaucoup de spectateurs, mais là, on avait une très très belle programmation qui était bouclée jusque autour de la mi-janvier, hein. Donc en fait, c'est pour ça. Nous, on fait la programmation au mois. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les plus gros cinémas, qui est une programmation à la semaine, bien souvent.
Il m'a également expliqué que la distribution des films n'impactait pas du coup directement les petites structures comme le cinéma du déclin. En revanche, comme Clément l'explique, d'autres types de charges peuvent toucher la trésorerie.
L'argent est versé après l'achat du billet, c'est-à-dire que sur un ticket de cinéma à 5,50€, il y a le pourcentage qui revient au distributeur, il y a un pourcentage qui revient au Centre National du Cinéma, et puis il y a d'autres petits pourcentages. Donc en fait, la salle ne récupère pas grand-chose sur un ticket de cinéma. Donc là, effectivement, ça n'impacte pas notre trésorerie au niveau des films. Par contre, on a des frais fixes qui, eux, n'ont pas baissé, peu importe le nombre de films projetés. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez l'entretien, évidemment, du matériel, mais tout ce qui est la maintenance, en fait, qui est une vérification annuelle du matériel, mais il y a un coût, il y a tout le matériel qui est payé, mais qui est quand même, qui doit fonctionner sous des logiciels, donc ça, on le paye. Donc, voilà. Après, il y a aussi le fait que là, on est obligé de faire tourner un peu le matériel parce que le froid arrive, et en fait, c'est très mauvais pour les projecteurs numériques. Donc il faut quand même chauffer un petit peu la salle et la faire tourner, ce qui en fait nous génère des coûts. Et évidemment, ces coûts-là ne sont pas remboursés puisque les films ne sont pas projetés. Donc ça va en système associatif, on n'a pas de salariés sauf une, donc ça va en fait, ça permet de ne pas avoir trop de dépenses. Mais bon, c'est vrai qu'on aimerait que cet argent soit plutôt investi dans des... pour améliorer la salle et pas la laisser vide pendant des mois.
François Aimé, le président de l'Association française des cinémas d'art et d'essai, s'interrogeait notamment il y a quelques jours sur la différenciation faite entre les galeries marchandes et les salles de spectacle et de cinéma. Il parlait notamment d'un sentiment d'inéquité sur le sujet. Clément m'a donné son ressenti sur la question et m'a parlé de la solidarité qu'il existait entre les salles de cinéma d'art et d'essai en Ille-et-Vilaine.
Je parle pour moi et je pense que l'avis d'Annette Dupuis, la directrice du cinéma, sera le même. On pense vraiment que la rouverture le 7 janvier est un petit peu... pense qu'elle est un peu utopique. On n'y croit pas beaucoup, puisqu'en fait, effectivement, on nous annonce des choses pour les contrer peu de temps après. Donc, en fait, pour l'instant, on va attendre vraiment une annonce définitive et on attend vraiment le jour J pour être sûr. Donc, de ce côté-là, on a perdu un petit peu, voilà, notre énergie qu'on avait à se mobiliser pour la date annoncée. Bon, ça n'empêche qu'on a toujours envie de continuer, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais on reste beaucoup plus sceptique par rapport à avant. Donc pour l'instant, on reste prudent. Je pense qu'il faut mieux se concentrer en janvier sur évidemment des ressorties, puisqu'il y a des films qui n'ont pas eu l'exposition qu'ils méritaient, mais aussi d'accompagner les films qui vont sortir. Le gros souci, là, ça va être l'embouteillage de films au mois de janvier, quoi. C'est impressionnant le nombre de films qui auraient dû sortir et qui ne sont pas sortis, qui vont se retrouver catapultés sur les écrans avec une durée de vie d'exposition très très faible. Donc c'est là, notre rôle va être de les accompagner avant de pouvoir replanifier des rencontres peut-être pour les vacances de février au mieux.
Suite à ces deux confinements consécutifs, je me suis interrogé sur la façon dont il appréhendait une probable réouverture du cinéma du Guichelin, si un manque se faisait ressentir de la part des habitués, ou si justement le climat anxiogène autour de la pandémie impactait le nombre d'entrées.
Il faut savoir que les cinémas RSS ne sont jamais isolés, en fait, peut-être dans d'autres régions, mais en tout cas en Ille-et-Vilaine, il y a un réseau très fort, puisque il y a beaucoup de salles associatives qui sont regroupées dans un réseau qui s'appelle Ciné 35, et qui est une fédération de cinéma, justement pour proposer des animations, quand il y a un invité, essayer de le faire circuler dans plusieurs cinémas pour partager les coûts. Donc il y a vraiment une solidarité à ce niveau-là, au niveau des salles d'RSS. Donc j'entends la grogne qui monte beaucoup plus là, chez les exploitants, et je pense que ça aura peut-être plus d'impact que d'habitude sur cette iniquité. Effectivement, il avait raison de pointer du doigt les incohérences sur le fait qu'il y avait énormément de monde pour les fêtes dans les magasins, et que nous, dans les cinémas, il y avait quand même un espace qui était laissé entre chaque groupe. On désinfectait les barrières dès que les gens étaient rentrés, les petites barres qui permettaient de s'accrocher dans les escaliers, tout était désinfecté, il y avait du gel hydroalcoolique, les masques étaient maintenus pendant les séances. Donc franchement, on comprend pas trop, comme les restaurateurs d'ailleurs, ce report. Mais effectivement, faut pas désespérer, il reste une solidarité qui est toujours, comme dans beaucoup de secteurs, liée à la taille. En fait, c'est la petite exploitation qui va se fédérer ensemble, hein, mais ils ont parfois des intérêts convergents et divergents avec la grande exploitation. Donc il faut pas faire un tout avec seulement des cinémas, mais je pense qu'il faut voir aussi les différences qu'il peut y avoir entre une petite exploitation, un mono-écran et un multiplex qui peut, lui, à une douzaine de salles et peut projeter beaucoup plus de films. Donc c'est pour ça que la rouverture pour en janvier pour un multiplex est moins inquiétante en termes de programmation, puisqu'il a les écrans, normalement, sauf s'il décide de les accaparer par 2-3 films, de pouvoir diffuser énormément de films. Mais le problème, c'est que souvent, il manque dans ces multiplex un accompagnement et une relation qui est peut-être moins directe avec les spectateurs.
On espère en tout cas que nos projectionnistes et gérants de cinéma locaux vont rester motivés pour nous offrir toujours plus de beaux moments sur grand écran. Merci Clément d'avoir répondu à nos questions. Pour ma part, j'ai très hâte que le vide blanc des toiles de ciné soit vite remplacé par toujours plus de couleurs et d'émotions.
C'est un peu tôt pour en juger, mais déjà en août, juillet-août, quand la réouverture s'est faite, déjà beaucoup de gens nous ont dit « on viendra, peu importe le film ». Vous programmez, enfin, c'était pas programmé n'importe quoi, mais justement déjà ils nous faisaient confiance sur la programmation, et en plus ils disaient voilà, nous c'est un moment qu'on aime bien, il y a des gens, nous, qui venaient toutes les semaines voir tous les films, donc on a vraiment un public, des fidèles qui viennent tout le temps, qui assurent en fait au moins une vingtaine de spectateurs à chaque séance, ce qui est déjà pas mal, même pour des films très 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 difficiles. Donc je pense que nous, on aura toujours en fait un réseau qui permettra de tenir, et notamment ça s'est retrouvé sur la page Facebook qu'on a ouvert il y a quelques années du cinéma, et on a eu beaucoup de messages de soutien et de se motiver et continuer à faire ce qu'on faisait. Donc ça, c'est vraiment très encourageant, et c'est ce qui, à mon avis, donne l'impulsion pour continuer.
Merci Paul, et merci à ton invité pour toutes ces précisions sur la gestion de nos salles obscures préférées en temps de Covid-19. On écoute à présent un morceau qui mélange French Boogie, rap et musique électronique. C'est parti pour le morceau Une éternité du groupe Braque de Weimar sur Syllab.
recherche de la tendresse. Alors sers-moi un café latte. Cela fait une éternité que je maraude dans les parages. Incendie à tous les étages. Laisse-les danser, laisse-les danser. Tu me tiens en liesse. Passe le volant car j'ai passé l'âge. Tu es de mèche par politesse. Lorsque le ciel finit par se gâter, cela fait une éternité que ça me taraude. Un dérapage indécis, je rentre à la nage. Laisse-les danser, laisse-les danser. Les mains. Il n'y a plus d'amigo. Cela fait une éternité que j'ai l'émeraude en héritage. Je tombe amoureux de l'otage. Laisse-les danser, laisse-les danser. Je fais la promesse d'un corps brûlant sorti d'une cage. Si je me perche sur tes prouesses, c'est que raison m'a déjà quitté. Cela fait une éternité que c'est une fraude, un maquillage imprécis et en décalage. Laisse-les danser, laisse-les danser. Les mains. Il n'y a plus d'amigo. Les mains. Et je tape le corico. Les mains. Il n'y a plus d'amigo. Les mains.
C'est Braque de Weimar sur le 88.4, un groupe qui n'aboie pas mais nous livre le super morceau Une éternité.
Syllabe.
Ah, Radio Sauvage.
Ça pote la même limonade là.
On continue avec toi, Hello. T'as profité du week-end pour travailler et t'entretenir avec Marie-Françoise d'Amnesty International à Rennes.
Oui, tout à fait. Samedi matin, l'association Amnesty International était présente au marché du Blône pour parler de leur action 10 jours pour signer qu'ils mènent tous les ans pendant 10 jours. Et j'ai pu rencontrer Marie-Françoise Barbou, membre de Amnesty International. Elle nous explique comment est née cette action et en quoi cela consiste.
10 jours pour signer, eh bien, ça fait 19 ans que cette action mondiale existe. Elle a été donc initiée en 2001 à Varsovie, en Pologne. 3000 personnes d'Amnesty International Pologne se sont réunies pendant 24 heures pour écrire un maximum de lettres en faveur de la défense de personnes. Et voilà, ça a été parti. Donc depuis 19 ans, 10 jours pour signer se tient au moment du 10 décembre, c'est-à-dire la journée internationale des droits humains. Donc pour mobiliser un maximum de personnes autour de 10 cas dans le monde.
Habituellement, ils mènent cette action en même temps que leur marché de Noël artisanal organisé aux Halles Place des Lys, ce qui permet d'attirer beaucoup de visiteurs et donc de visibilité. Mais cette année, en raison de la crise sanitaire, l'événement a été annulé. Ils ont donc tout de même tenu à sensibiliser la population rennaise à cette action, mais pas tout à fait de la même manière que les autres années.
Alors c'est vrai qu'habituellement on organise les 10 jours pour signer au moment du salon artisanal qui se tient au Lys pendant 2 jours, et donc ce qui nous permet effectivement de rencontrer et d'échanger avec beaucoup de personnes. Bon, bah là avec le contexte Covid on a dû effectivement s'adapter, donc on est sur le marché du Blône parce que c'est aussi un quartier où il est important que les gens sachent qu'ils ont des droits et que des gens défendent les droits partout dans le monde. Hein, on est avec une population qui vient de nombreux pays, donc c'est important d'être présent au marché du Blône.
Les passants sont là principalement pour aller faire leurs emplettes au marché, mais le but est de les interpeller pour qu'ils se rendent sur le site d'Amnesty International afin de signer les pétitions.
Alors bon, les gens viennent beaucoup, sur le marché, donc forcément c'est leur premier objectif. Pour autant, on arrive à interpeller quelques personnes. Et puis c'est la visibilité d'Amnesty International. Les gens, ils captent toujours quelque chose et puis sont après plus réceptifs. Et puis nous, l'objectif là, c'est de les amener à aller sur le site internet des 10 jours pour signer, puisqu'effectivement avec le contexte, là, on ne peut pas signer de pétition.
En tout cas, 11 cas sont défendus avec à chaque fois des revendications différentes.
Alors les situations sont différentes. D'une manière générale, ce que l'on demande, c'est de la justice. Si on prend par exemple le cas de Poppy et Bangela d'Afrique du Sud, ce sont deux jeunes femmes qui ont été assassinées. Il n'y a pas eu de justice, il n'y a même pas eu d'enquête. Donc nous, ce que l'on demande, c'est que justice soit faite. D'autant qu'en Afrique du Sud, il y a une femme qui meurt toutes les 3 heures. Donc il faut qu'il y ait les moyens d'enquête qui soient mis en place. Parfois, c'est d'autres, par exemple Idriss, qui est un chercheur d'Amnesty, qui enquête sur les disparitions forcées. Lui-même a disparu. Donc, on a réussi à savoir qu'il était emprisonné. Donc, on demande à ce qu'il soit libéré. C'est également la situation de Nassima en Arabie Saoudite. C'est une jeune femme qui s'est défendue en faveur des droits humains pour que les femmes aient les mêmes droits. Et donc au moment où notamment elle demandait là, que les femmes aient le droit de conduire, où la loi est passée, eh bien elle a été, elle, emprisonnée. Parce que on veut montrer, l'Arabie Saoudite veut montrer qu'ils sont modernes. Donc ils font, apparaître une certaine ouverture, et puis d'un autre côté, ils enferment les défenseurs des droits. Donc on demande justice pour elles. Soit c'est la justice qui n'a pas été faite, des personnes qui sont emprisonnées, on demande à ce qu'ils soient libérés, soit on demande effectivement à ce qu'il y ait des enquêtes plus approfondies sur un certain nombre de cas.
11 cas donc, chacun dans un pays différent, mais à chaque fois, ce sont des personnes qui se battent pour les droits humains.
C'est des cas emblématiques, soit dans des pays où effectivement d'autres situations comparables se retrouvent, des pays où il y a des enjeux forts en termes de liberté, de justice. C'est aussi différentes personnes, différents métiers, des journalistes, des photographes, des simples citoyens. Donc voilà, on essaye d'avoir une certaine représentativité des enjeux en termes de justice dans le monde. Et effectivement, avec des pays où il y a des enjeux particulièrement forts.
L'objectif de ces 10 jours pour signer, c'est d'améliorer la situation de ces 10 cas, souvent emprisonnés ou accusés à tort. L'année dernière, Amnesty avait reçu des résultats encourageants.
Les 10 jours pour signer, c'est une mise en lumière très forte de 10 situations. Donc c'est une pression évidemment sur les autorités par rapport à ces personnes. Donc c'est des réussites. En 2019, parmi les 10 cas, il y a eu de nombreuses avancées pour ces 10 personnes. Je vais revenir notamment sur le cas de Maguey du Soudan du Sud, qui était condamné à mort à 15 ans et dont on a obtenu la libération donc, le 14 juillet dernier. C'est aussi les jeunes de Gracie du Canada qui se sont battus en faveur de... suite à des pollutions de rivières au mercure, donc au Canada, qu'ils ont obtenu 19 millions de dollars pour créer un centre de soins. Et puis peut-être effectivement souligner le cas de Camille Alu, qui est une observatrice de la Ligue des droits de l'homme, donc qui avait été arrêtée suite à sa présence lors de manifestations. Eh bien, en janvier 2020, Camille a été relaxée de tous les chefs d'accusation, donc ce qu'on a retenu contre elle. Donc voilà, c'est aussi des cas qui se passent en France.
Si vous voulez signer les pétitions et participer aux 10 jours pour signer, Marie-Françoise Barbou vous explique la démarche.
C'est très simple, il suffit de taper sur internet donc 10 jours pour signer Amnesty, puis vous allez tomber sur la page de la campagne 10 jours pour signer avec la présentation des 11 cas, parce qu'en fait il y a 10 plus 1 cas cette année. Donc vous pouvez ensuite, il y a une présentation de chacun des cas et on vous invite à signer chacune des pétitions. C'est une mobilisation individuelle, mais chaque signature compte et ces signatures après signature qu'on peut obtenir une avancée dans la justice dans le monde.
Merci à Marie-Françoise Barbou et Amnesty International. N'hésitez pas donc à vous rendre sur le site internet d'Amnesty International pour signer les pétitions.
Dans la vie, il n'y a pas de problème avec les fatalités.
Si pour Amnesty International, vous avez 10 jours pour signer, le morceau « Don't Panic » de la fine équipe se déguste tout de suite sur l'antenne de la Radio Sauvage.
You gon' bust. Don't panic. If you gon' bust.
C'était à l'instant l'excellent groupe La Fine Équipe avec leur morceau Don't Panic qui nous rappelle l'importance de chiller.
Syllabe,
la radio sauvage.
Et pour conclure cette émission en beauté, on retrouve la nouvelle chronique L'Actu des Oubliés réalisée par Mélène. On écoute tout de suite son premier épisode sur les luttes populaires. Enjoy.
Entends les lames blanches s'écraser sur ton rivage. Elles colportent des nouvelles d'ailleurs. Ausculte les profondeurs occultes des déferlantes qui écument, qui roulent et s'éclatent sur le sable. Dans l'obscurité salée, tu verras peut-être les regards enflammés de celles et ceux que l'on a oubliés. Laisse-les venir à toi.
Bienvenue à toutes et tous dans l'actu des oubliés. C'est la première et c'est parti. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Et pour cette première, on part en Amérique latine. Le continent est en effervescence depuis le mois de septembre, avec la fin des confinements et le retour du printemps. On prend d'abord des nouvelles du Chili, où les manifestations se poursuivent aux abords du palais présidentiel de La Moneda. Les personnes rassemblées exigent la démission du président et veulent maintenir la pression en vue du changement de la constitution. Le 25 octobre, 78% des Chiliens et des Chiliennes votaient pour l'abandon de la constitution héritée de Pinochet et pour la rédaction d'un nouveau texte fondamental par une assemblée constituante élue. C'est l'une des conséquences du soulèvement populaire qui a débuté le 18 octobre 2019. Celui-ci a permis une véritable révolution pour le peuple chilien, qui s'est affranchi de la peur de la répression grâce à une résistance acharnée et très organisée. Les gens ont à nouveau osé parler politique, ont pu se réunir dans les assemblées et créer des formes d'organisation locales. C'est ainsi tout le système néolibéral qui est mis en cause et combattu par des initiatives populaires. La campagne pour le changement de la Constitution a été accompagnée de nombreuses marches. Elles se poursuivent encore aujourd'hui dans l'ensemble du pays, notamment pour la libération des prisonniers politiques. 5000 personnes sont encore détenues après avoir été interpellées en manifestation, condamnées pour certaines à plus de 10 ans de prison, souvent sur faux témoignages de policiers anti-émeutes. Des slogans pour leur libération fleurissent sur les murs des villes. Les manifestants font face aux canons à eau et aux jeeps lanceuses de lacrymogènes. Elles promettent « Nous serons là tant que le président n'aura pas démissionné ». Pour plus d'infos sur le Chili, vous pouvez consulter la presse locale et alternative El Ciudadano, Convergencia Medios ou encore Prensa Opal. Dans le pays voisin, au Pérou, un soulèvement populaire de grande ampleur a éclaté le 10 novembre. Deux présidents ont été destitués en moins d'une semaine. Ces dernières années, les scandales de corruption des politiciens par des multinationales se succèdent au Pérou. Depuis les années 90, tous les chefs d'État sont poursuivis pour ce motif. Certains sont déjà derrière les barreaux. En parallèle, les politiques néolibérales ont été imposées au détriment de la population, de l'environnement et de la santé publique. Le Pérou est d'ailleurs l'un des pays les plus durement touchés par l'épidémie actuelle. La corruption, les manigances politiques et les faveurs faites aux multinationales au détriment des plus pauvres sont autant de causes à la révolte. Le 9 novembre, le président Vizcarra est destitué par le Parlement pour corruption. Commence alors une contestation qui, 5 jours plus tard, fait tomber son remplaçant, Merino. Mais sa démission ne suffit pas à faire retomber la fronde. Les marches se poursuivent. La rue réclame un changement radical. À l'instar de leurs voisins chiliens, les Péruviens et Péruviennes exigent désormais la réécriture de la Constitution de 1993. Celle-ci est héritée du régime dictatorial de Fujimori, qui est aujourd'hui en prison pour crimes contre l'humanité. Les manifestations ont été durement réprimées. La police a commis de nombreuses exactions et a utilisé, en plus de l'arsenal habituel, des balles de plomb et des billes de verre. Au 14 novembre, 9 personnes avaient déjà été assassinées par les forces de l'ordre. Mais les contestataires tiennent bon. Le Parlement, contraint de nommer encore un nouveau président, a cette fois choisi un modéré, Sagasti. Sa première mesure a été de réformer la police et d'évincer 16 généraux, dont le commandant en chef des forces de l'ordre. Mais les manifestations se poursuivent. La jeunesse, fer de lance de ce mouvement, ne se contente pas d'un jeu des trônes au sommet de l'État. Dynamique et hyper organisée à travers les réseaux sociaux, elle continue de clamer « Le Pérou s'est réveillé ». À suivre. Pour plus d'infos sur la lutte au Pérou, vous pouvez consulter lamoula.pe ou classedesperiodismo.com. Le Brésil connaît également une vague de soulèvements. João Alberto Silveira Freitas, un homme noir de 40 ans, a été assassiné par des vigiles de Carrefour. Il a été tabassé pendant de longues minutes, puis étouffé sous les genoux des deux vigiles. Ce crime raciste, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, a déclenché la colère, dans la continuité du mouvement Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, en brésilien. Des marches offensives ont réuni des milliers de personnes dans la plupart des grandes villes. Le racisme récurrent des vigiles du groupe Carrefour a été pointé du doigt, révélateur de la xénophobie structurelle du pays. Un appel au boycott de Carrefour a été lancé au Brésil et pourrait dépasser les frontières. Ces magasins, souvent pillés ou incendiés, ont dû fermer leurs portes. Globalement, les tensions sociales au Brésil sont à un point critique. Et pourtant, Bolsonaro, affaibli par les élections municipales, s'enfonce dans le déni en niant l'existence du racisme. Il a encore une fois accusé les groupes d'extrême gauche d'entretenir, je cite, « des tensions inexistantes dans l'histoire du Brésil ». On part ensuite un peu plus au nord, en Amérique centrale, où au Guatemala, d'importantes manifestations ont eu lieu dans tout le pays contre l'adoption du budget annuel. Ce budget, le plus élevé de l'histoire du Guatemala, repose pour un tiers sur l'emprunt et sur la dette, aggravant la situation de dépendance économique du pays. En outre, sa mise en place bénéficierait principalement au secteur privé, au détriment de la protection sociale, des universités, du combat contre la pauvreté ou de celui contre la malnutrition infantile. Les classes populaires, durement touchées par le contexte actuel, reprochent également l'opacité des fonds destinés à la lutte contre l'épidémie. Samedi 21 novembre, les Guatémaltèques réunis réclamaient la révision du budget et la démission du gouvernement ainsi que de l'Assemblée. Dans la capitale, les manifestants ont installé une guillotine sur la place du Parlement et sont parvenus à pénétrer dans le bâtiment. Ils allumèrent un feu avec les portraits des anciens présidents et le siège de l'Assemblée, couvert de graffitis tels que « Voleur, ce budget est un pacte de corrompus », a été en partie incendié. Marches et répressions policières se sont poursuivies dans la nuit, ainsi que le lendemain. Dès le lundi, les dénonciations concernant l'incroyable violence des forces de police se sont succédées. Deux personnes ont été éborgnées. Ce même jour étaient annoncées des grèves étudiantines et le blocage des routes du pays par le comité de développement paysan. Sous la pression, le Parlement annonçait la suspension du budget pour préserver la paix sociale. Pas suffisant pour apaiser les Guatémaltèques, qui sont redescendus dans la rue ce samedi 28 novembre, comme tous les jours de la semaine, encore plus nombreux et plus déterminés à faire tomber le président. Un député de la majorité, faisant preuve de son mépris de classe, a traité les contestataires de mangeurs de haricots. Qu'à cela ne tienne, il et elle nomment désormais leur mouvement « Révolution des haricots », une manière peut-être de signifier au pouvoir que ce n'est qu'un début. En termes de médias alternatifs, au Brésil, vous pouvez par exemple consulter Media Ninja et au Guatemala, Prensa Libre. L'actu des oubliés. Histoire quotidienne des luttes populaires. Chronique réalisée par Melaine Fanouillère. Musique, Pierre Furet. Tous les épisodes de l'actu des oubliés sont écoutables et téléchargeables sur l'audioblog Arte, l'actu des oubliés. Dans le prochain épisode de l'actu des oubliés, on ira faire un tour en Thaïlande où la lutte dure depuis juillet dernier pour une réforme totale de la monarchie.
Merci Mélène, voilà pour le premier épisode de cette prometteuse chronique de l'actu des oubliés sur l'antenne de Scilab. Restez aux aguets, la suite viendra dans les prochains jours.
Scilab,
la radio sauvage.
Ça y est les amis, le voyage est fini, c'est la fin de cette émission inattendue.
Mais on vous retrouve demain avec des choses très sympas et peut-être Soraya.
On espère. Tu me parleras d'un Ripper Café en visio organisé samedi prochain. Et moi, je vous emmènerai dans l'atelier de Lucille Vio, artiste-chercheuse experte en géoverrerie.
Absolument, j'ai très très hâte d'être à demain. Merci Aurèle pour la technique et bonne soirée à vous qui nous écoutez sur le 88.4.